Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Salut Thomas, salut Christo.
Salut, salut.
Comment ça va?
Ça va bien, là on vient d'arriver à Paris pour du coup les IFB, les internationaux de France, pour nous représenter déjà la France et nous-mêmes à cette compétition. On est en double, moi et mon frère, et puis lui il joue aussi dans la discipline du simple.
Ouais.
Donc pour nous c'est vraiment un grand moment, un objectif de l'année, parce que voilà, jouer à France, en France, surtout pour des World Tour 750, donc un peu équivalent Grand Chelem au tennis, il y en a qu'un et c'est en France.
Ouais.
Enfin un seul en France, et donc c'est très important pour nous de faire bien, surtout à la maison quoi.
Ouais. C'est un rendez-vous annuel que tout le monde attend. Je pense que tous les Français aussi attendent que ça, parce que voilà, toute la billetterie est souvent à guichet fermé. Donc c'est vraiment intéressant de venir ici voir le niveau. Et voilà, c'est la compétition en France où on peut regarder les top 32 mondiaux s'affronter sur les cours de Coubertin. Donc c'est franchement une expérience, même pour des personnes voilà qui viennent juste pour le plaisir, c'est une très bonne expérience à réaliser, parce qu'on découvre vraiment le badminton en dehors de notre téléphone. Je pense que sur la télé et en streaming, ça montre pas vraiment la vitesse, le son, l'impact et toute la puissance qu'on peut délivrer à partir du terrain. Alors quand on est en live, c'est totalement autre chose, et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont beaucoup plus conquis en venant voir un match que être juste en le montrant une vidéo spectaculaire un peu de badminton quoi.
Ouais, bah écoute, je confirme, je suis allé un peu sur les terrains là juste avant de vous voir, et c'est vrai que il y a une vitesse, il y a des choses qu'on voit pas forcément dans les images, et ouais, je recommande vraiment aux gens d'y aller. Moi j'y serai du coup cette semaine, je vais me débrouiller pour vous voir jouer, et je suis vraiment content de découvrir. En plus voilà, les billets sont vraiment accessibles, donc c'est une super expérience. Voilà, Pierre de Coubertin, pour les Parisiens et ceux qui sont en Île-de-France, ça vaut vraiment le coup.
Ouais, c'est clair.
Vous avez fait d'autres tournois aussi en plus en France pour les gens qui veulent découvrir.
Oui, il y a plusieurs tournois en France. Donc avant, il y en avait deux à l'échelle internationale. Donc il y avait l'Open de France, et puis les Orléans Master, qui étaient à Orléans. Donc c'était deux compétitions gradées World Tour, même si Paris est dans les plus hauts gradés et Orléans est dans les premiers stades du World Tour. À partir de cette année, il y a aussi le tournoi international Challenge de Nantes.
Ok.
Donc moi j'y ai participé, et voilà, ça fait trois tournois internationaux en France.
Plus le troisième, l'International Series, c'est encore plus bas, c'est à Pessac.
Okay.
Donc au tout début, il y avait internationalement que à Paris. Petit à petit, il y a des tournois de second et troisième et quatrième niveau qui sont soit ajoutés. Donc, ça prouve bien que le badminton commence à se développer en France.
Exactement.
La fédération commence à être de plus en plus puissante et avoir un beaucoup plus gros rayonnement international comme national. Donc, c'est juste magnifique pour nous, joueurs français, qui avons maintenant quatre compétitions sur des niveaux différents où on peut, voilà, jouer à la maison, chez soi, avec une atmosphère, avec des spectateurs. Alors qu'avant, voilà, on avait une compétition par an, c'était en octobre. Pour y participer, il fallait être dans les top mondiaux. Donc voilà, pas tout le monde avait sa chance pour être représenté sur une compétition à la maison, quoi.
Exactement, il y avait plusieurs occasions maintenant, il y a plusieurs occasions de jouer devant le public français, et c'est quelque chose que des personnes qui n'ont pas accès à des compétitions comme Paris, ouais, pouvoir aussi le faire et avoir cette expérience avec un public français, c'est vraiment top.
Ouais, bah carrément. Bah, écoute, je vois un peu effectivement l'ascension du BAD, et notamment on le voit sur les classements mondiaux. Je regardais encore hier le top 100. Vous êtes quand même nombreux, un petit nombre.
C'est conséquent, ouais.
Ouais, ça commence à être pas mal. On va chatouiller les Danois, les Asiatiques.
Exactement.
Donc ça fait super plaisir, les gars. Bravo.
Merci.
Et en plus, bah écoutez, on va se régaler aujourd'hui. J'ai pas mal de questions parce qu'en plus vous jouez en simple et en double ensemble.
Oui.
Alors, votre papa vient de me dire que du coup vous étiez dans le top 20 là actuellement en double.
Oui,
c'est ça.
Actuellement 20e mondial au classement. Ouais.
Et les seuls à le faire en double et en simple, que sinon après les autres joueurs arrêtent. Donc c'est d'autant plus le méritable, et on va pouvoir en parler. Donc j'ai pas mal de sujets, mais avant tout, je vous l'ai dit, il y a une question traditionnelle sur le podcast. Je l'ai demandé à plus de 170 champions et championnes, donc je suis obligé de vous la demander aussi. C'est de savoir quel est votre premier souvenir de sport.
Tu peux commencer si tu veux.
Et moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est lors de mes championnats d'Europe en 2017, parce que je commençais, c'était en mars, je crois. Et donc voilà, j'étais potentiellement médaillable dans les deux tableaux où j'étais inscrit, simple et double. Et en plus, sur le par équipe, on avait une équipe qui était très très forte.
Ok.
Au niveau international. Donc voilà, on était les favoris presque. C'est pour ça que des années auparavant, tout le monde savait que cette génération allait peut-être faire quelque chose. Et c'est pour ça que le championnat d'Europe était à Mulhouse en France. Donc la fédération avait pris des dispositions pour que cette équipe-là gagne potentiellement à la maison. Et sauf qu'en fait, après une tournée au mois de janvier, au mois de mi-février, je commence à avoir voilà les ganglions qui enflent, que j'étais pas bien, et que okay. En fait, après plusieurs diagnostics, au bout d'une semaine, on me dit que j'ai une mononucléose.
Okay.
Et donc je suis à mon pic, et en fait que pendant les 6 prochains mois, je vais être HS, parce que ça me, voilà, on est vraiment fatigué, on est vraiment à plat. Et même le médecin fédéral, il me dit, bon ben c'est pas grave, tu joueras pas le championnat d'Europe, parce que c'est dans moins d'un mois, c'est vraiment à très court terme, c'est fini. Le sélectionneur aussi, et puis parce que mon père, il abandonne pas. Et en fait, on est allé voir un médecin à Aix, le docteur Servetti, un docteur du sport qu'on nous avait conseillé à ce niveau-là. Et puis non, il me dit, bon ben on va essayer un nouveau traitement, voilà, et avec plein de, voilà, mais c'était pas remboursé, donc fallait tout avancer au niveau des médicaments. Finalement, au bout de 2 semaines, je commence à avoir un effet positif. Okay. Et au bout de 3 semaines, j'ai repris l'entraînement, et une semaine après, c'était le championnat d'Europe, quoi. Donc
okay.
Et finalement, je ressors avec 3 médailles d'or, donc en simple, double et par équipe.
Ouais.
Donc je finis ma carrière jeune sur le top du top. Il y avait rien de mieux pour le moment, donc franchement, voilà.
Okay.
C'est le plus beau souvenir que j'ai, et c'est celui qui m'a marqué aussi le plus.
C'est un bon traitement quand même. Hein, parce que,
c'est ça, je vais demander la recette.
C'était
un bon traitement.
Non, mais c'était pas truc dopant, c'était pas truc, voilà,
à base de plantes.
Ouais. Bah, j'imagine que tu le raconterais pas, mais
voilà, c'était le tout pour le tout, c'était le dernier coup à jouer avant de, voilà, se dire bon, mais c'est fini, parce qu'on est vraiment à plat. J'arrivais à peine me lever du lit.
Okay.
Enfin, des tensions dans le cou, voilà, je devais me rouler sur lui pour que je puisse me lever, impossible de ouais, voilà, de forcer sur les cervicales. Donc voilà, c'était vraiment difficile.
Ok, bon bah écoute, c'était une très belle façon en tout cas de terminer sur le circuit junior. Et toi du coup, Christo?
Moi j'ai un souvenir de ma première compétition étant petit.
Ok.
Donc, je devais avoir 6 ans, mais je jouais déjà dans les moins de 11 ans, donc 10-11 ans.
Ouais.
Et je gagne.
Okay.
Donc, mais vu que c'était ma première compétition et que tout le monde avait 4 ans de plus que moi, dès le premier match, je me disais, ouais, je vais me faire tuer. Ouais, c'est vraiment. Mais avec papa qui est derrière, et papa, c'est quelqu'un, il a une personnalité très forte. Et pour lui, c'est vraiment. Qui que ce soit en face, ses fils sont les meilleurs.
Ouais.
Ben, on a toujours été grandi de cette façon-là. Et donc, j'ai abordé le match aussi un peu de cette façon-là. De cette façon-là.
Christo était très petite taille.
Ouais, c'est vrai.
Naturellement, j'étais très petit, ouais. petit. Et donc, voilà, je gagne un match, deux matchs, trois matchs. Et en fait, jusqu'à la finale, jusqu'à que je gagne. En plus, je gagne plutôt facilement la première compétition. Alors ouais. que c'est quand même les meilleurs un peu du département et de la région. Et le point où j'ai gagné, normalement, le rituel, la tradition, c'est de serrer la main de l'adversaire. Sauf que tellement que j'étais content que je me retourne et je cours dans les tribunes, serrer ma mère et mes grands-parents. Et puis je m'en vais, quoi. C'est-à-dire que j'ai presque sorti de la salle. Et tout le monde vient me dire reviens, faut serrer la main de l'adversaire, l'arbitre, nanana. Et voilà, c'est un truc où, en fait. Vu que c'était première compétition, beaucoup de stress, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions, surtout petit et qu'on a du mal à gérer.
Ouais.
Alors là, j'étais totalement sorti du mode compétition, quoi.
Ouais. Mais j'imagine, bon, l'adversaire a pas du mal de le prendre, mais.
Finalement, cet adversaire est devenu un très bon ami à nous.
Bah, finalement, ouais. Son père, c'est le meilleur ami de mon père. On a fait des vacances ensemble.
Donc,
s'il écoute ça, il se reconnaîtra. Donc, ouais.
Ok, bon, on lui fait une bise, en tout cas. Merci de ne pas avoir de rancune. mais je peux te comprendre cette émotion, justement, où t'oublies complètement d'aller dire au revoir. C'est normal. Et vous avez une histoire un peu particulière, parce que vous êtes arrivés jeunes tous les deux, du coup, en France. Vous êtes nés tous les deux à Sofia en Bulgarie.
Oui.
D'ailleurs, vous avez un super français tous les deux. Enfin, c'est nickel et tout. Mais je suis curieux de savoir deux choses. J'avais entendu dans une interview de vous que plus jeune, ça a été un petit peu dur l'école d'arriver parce que vous ne parliez pas du tout français et donc forcément c'est un peu plus compliqué.
C'est un peu une barrière, ouais.
Ouais, c'est une barrière, ce qui peut se comprendre. Et moi je serais curieux de savoir aussi quand est-ce que vous avez commencé le BAD. Est-ce que justement, j'en parlais avec un triathlète qui lui était très discret à l'école, il n'aimait pas du tout l'école. Et pour lui, le sport c'était le seul endroit où il arrivait à se faire des copains et à casser un peu les barrières de sa timidité. D'accord. Et du coup, je me demandais si c'est un peu la même chose pour vous.
Je pense que on a deux cas qui sont assez différents parce que moi je suis arrivé très jeune, j'avais un an et six mois, presque deux ans, donc en fait j'ai grandi en France.
Ouais.
Donc pour moi c'était vraiment mes premiers amis à 2, 3, 4, 5 ans. Je parlais déjà français, donc il n'y avait pas de soucis, donc j'ai eu beaucoup plus facilement mon enfance, je dirais, que mon frère. Oui, c'est vrai, comme tu le dis, c'est arriver dans une salle de sport, faire du sport très jeune, et nous avec la barrière de langue petit. Sachant que notre père était entraîneur de ce club-là.
Ouais. Il parlait pas de français non plus, je crois.
En fait, lui, il est arrivé en 2003 en France, donc il arrivait un peu avant nous. Nous, on a suivi par la suite, donc lui, il parlait un petit peu français. Mais le fait que ce soit mon père l'entraîneur lors des séances de tout le monde et nous, un peu les fistons, on a déjà intégré un cercle, voilà, un peu social du club qui ont, je pense, par la suite facilité évidemment notre insertion en milieu.
Ouais, bien sûr.
Mais pour mon frère, c'était un peu plus compliqué. Qu'il arrivait, il devait être directement à l'OCP et normalement, déjà à peu près, on apprend à lire et écrire, mais on a déjà des bases quand même.
Ouais, en fait, moi j'ai fait ma maternelle, crèche maternelle en Bulgarie et donc tout mon cerveau était formaté pour le bulgare, donc j'étais déjà prêt pour intégrer les écoles. Sauf qu'en fait, en 2003, mon père, pendant un an, il était à Fos-sur-Mer au club pour faire une année de test probation. Il s'est très bien intégré, c'est là où il a appris le français, donc il a été embauché ensuite. Et donc, mai 2004.
C'est tellement un objectif que.
Dans la tête, mai 2004, on arrive, parce qu'on est venu en voiture en plus.
Ouais.
Donc, on arrive, et en fait, en espace de 3 mois, je devais apprendre le français, sauf que comme on est petit, on a autre chose à faire de notre été. Donc, en fait, dès qu'on est arrivé en France au mois de mi-août, en fait, je savais que compter jusqu'à 10 et fourchette, couteau et cuillère, quoi.
Ouais.
Et donc, j'intègre le CP. Et pour moi, au tout début, c'était quelque chose de pas. J'étais pas à l'aise.
Ouais.
Je veux dire, parce que déjà, on était en retard. On était en retard, donc tout le monde était déjà assis. Et en fait, on en arrive, le petit étranger arrive avec son petit sac à dos et pas trop. Je parle pas le français, alors que mes parents derrière, ils me poussaient vers la salle de classe. Moi, j'arrive pas trop à y aller.
Je vois l'image justement des parents.
Un pas en avant, mais deux pas en arrière. Et finalement, j'y suis allé. Donc voilà. Et en fait, au début, c'était dur parce que je comprenais pas.
Ouais.
Et heureusement que l'enseignante, elle était assez sympa. Elle a demandé des mots à mon père et à ma mère en bulgare pour que je puisse à minima suivre quelque chose.
Ouais.
Et ensuite, que moi, ensuite, je travaille à la maison et j'essaie de m'intégrer au mieux. Et finalement, petit à petit, au tout début, c'était difficile de communiquer avec ses amis.
Ouais.
De pourquoi peut-être le bat, ça m'a aussi aidé d'intégrer un peu un cercle social où on se comprenait plus par le sport que par, que par les mots.
C'est un autre langage, en fait.
C'est ça. Et du coup, ensuite, je pense qu'au bout des 6 premiers mois, ensuite, c'était tout seul, quoi.
Ok, ok, ok.
Mais je me souviens des fois, parce que mon père, nous, par exemple, pour les céréales, ben, mon père les appelait un peu les roup roup parce que ça
faisait le bruit
et voilà ça faisait le bruit donc pour lui il le disait comme ça et du coup moi une fois c'était au CP enfin il disait voilà enfin il y avait des photos et fallait mettre le nom en dessous et du coup moi je sais et en fait et je lui dis le mot que mon père m'a toujours dit et elle me dit non c'est pas ça je dis mais si c'est mon père qui me l'a dit mais si et en fait non c'était bien le mot céréale et voilà et donc du coup voilà il y a plein de petites anecdotes comme ça quand on était jeune que par exemple si on a découvert les pâtes salées.
Ouais.
En Bulgarie, c'est que des pâtes.
C'est que des macaronis, c'est œufs, feta,
avant,
four.
Maintenant, c'est beaucoup plus démocratisé, les pâtes salées, pâtes carbonara, bolognaise, mais avant, c'était pâtes au sucre.
Pâtes au sucre.
Mais en fait, c'est des macaronis au four, avec deux œufs, avec des œufs et du fromage.
Ok, d'accord. Ok.
Donc voilà, et ça se mangeait avec un peu de sucre. Donc c'était plus pour le goûter ou pour le petit déj. Ouais. Si on a découvert l'ice tea, on a découvert plein de nouvelles, voilà, enfin la tapenade, voilà, plein de trucs provençal, voilà.
Ouais, donc nouveau décor, nouvelle vie, et c'est sûr que c'est.
Exactement.
C'est ça. Aujourd'hui, vous êtes encore hyper attaché à la Bulgarie. Je sais que vous parlez fréquemment à la maison. Enfin,
bah, à la maison, on parle bulgare. On mange presque que du bulgare à la maison, même si voilà.
Écoute, c'est quoi en anglais, c'est dumplings. C'est quoi les ravioles un peu, c'est ça de viande. C'est un des plats typiques, non?
Surtout des plats.
Il y a le goulash aussi. Non, le goulash c'est polonais. Plus.
Goulash c'est plus les pays Hongrie, République Tchèque, Pologne. Nous, c'est plus. Ça ressemble plus à la cuisine turque et grecque.
Ouais.
Ça a plus peut-être des grills.
Il y a des salades,
des salades, beaucoup de grills, salades et beaucoup de plats en terre cuite, des plats mijotés. Voilà, ça plus des trucs.
Il y a aussi la moussaka, du coup la moussaka grecque qui est avec des aubergines, mais avec des pommes de terre, la moussaka bulgare.
Okay.
Et la moussaka turque qui est une variante personnellement, je déteste les aubergines. Donc j'adore la moussaka bulgare, mais je comprends qu'il y en a qui adorent aussi la moussaka grecque, ça a l'air super bon aussi quand même.
Ok, bon, bah, les auditeurs qui ont l'habitude de faire leur sport pendant qu'ils écoutent les podcasts vont s'arrêter à aller manger.
C'est ça.
Mais voilà, aller manger dans un restaurant bulgare, je pense que vous serez pas déçus. Moi, je me souviens d'un séjour à Sofia, j'avais très bien mangé. J'avais été surpris, en fait, je m'attendais pas du tout à cette cuisine-là. Et c'est vrai que maintenant que vous me le rappelez, je confonds un peu.
C'est beaucoup de grillades,
Il y a beaucoup de grillades et tout. Mais j'avais
c'est très copieux. Ils aiment bien mettre beaucoup dans les assiettes et ils en voient vraiment. Parce que là-bas, on mange beaucoup.
Ouais.
Du coup, voilà. C'est vraiment comme on est habitué, donc dès qu'on voit par exemple sur un tournoi un restaurant turc ou quoi qu'il faut manger ce soir,
on est
très vite attiré par là-bas ou un restaurant grec parce que ça ressemble un peu à notre nourriture et ça fait du bien un peu de le retrouver parce qu'on rentre que l'été pour 2-3 semaines, donc c'est notre moment de pause, on va dire. C'est là où on revoit toute la famille et voilà, on se ressource un peu. Donc c'est juste ces moments-là où on peut manger un peu de la nourriture bulgare. Donc si on est en compétition et des fois on voit quelque chose qui lui ressemble, on sera très vite attiré par là-bas, quoi.
Ok. Et à quel âge vous commencez le badminton d'ailleurs? Bon, on a bien compris, votre père est un ancien badiste. Je crois que votre mère aussi est très sportive, ou peut-être un petit peu moins.
Elle a fait du badminton.
Des périodes.
Ouais.
Okay. Elle était danseuse professionnelle. Ensuite, quand elle a rencontré mon père, elle a travaillé, elle a arrêté la danse, mais ensuite elle s'est un peu mise au badminton, un peu via mon père en France.
Ouais.
Et ensuite, elle était un peu arbitre national.
Ok.
Elle a passé des grades d'arbitre jusqu'à être arbitre
mais
national.
Mais maintenant, elle est juste en tant que spectatrice et voilà, elle veut voir ses filles jouer, et voilà.
Ok. Mais du coup, on a compris, vous avez été bercé dedans, que ça a été. Vous avez été tout de suite dans le sujet. Est-ce que moi une des choses qui m'intéressait c'est vous l'avez dit en plus juste avant, votre père a beaucoup d'ambition. N'importe quel adversaire, vous pouvez le battre. Quand je lui ai dit bonjour tout à l'heure, la première chose qu'il m'a dit c'est que le début de la belle histoire. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est vous, à partir de quel moment vous vous êtes dit tiens, j'ai envie de devenir un joueur pro, j'ai envie d'en faire une carrière. À quel moment ça vous est venu? Est-ce que vous vous souvenez un peu de ce moment-là? Parce que j'imagine que ça a dû venir assez tôt, l'envie
Je pense que c'était assez naturel. Ouais, parce qu'on baigne dedans, je pense. Donc c'était assez naturel.
En fait,
mais je pense que peut-être chacun a eu son déclic à un moment donné de se dire, OK, j'ai les armes pour aller là-bas.
Ouais,
et pas vrai. Juste parce que c'est dans la famille, je continue et je joue parce que je dois jouer. Ouais. Non, c'est à un moment donné, je pense qu'à un moment donné, chacun a eu son déclic sur un match ou sur une compétition et on a dû se dire, ah ouais, ok, donc on se prouve à soi-même qu'on peut aller là-bas.
Ok.
Et voilà, il y a des compétitions qui ont dû faire ça, ouais.
Je pense que c'est fait exactement, comme il dit, petit à petit, c'était commencer par les tournois entre les villes, inter-département, inter-régional, puis après national. Et je pense que c'est voilà, dans les premiers titres de champion de France qu'on a chez les jeunes, puis après quand on intègre niveau international, champion d'Europe, ouais. Puis enchaîner les titres, en fait, c'est plus une fois qu'on est un peu au top de sa catégorie, jeune, je pense qu'on se dit, voilà, en fait, plus on augmente, plus on a d'ambition aussi. Ouais. Et donc à un moment où quand on gagne par exemple un tournoi adulte international, peut-être voilà les ambitions c'est voilà maintenant être pro.
On passe aux... en fait ouais. C'est des étapes.
Ouais bien sûr.
Exactement.
Mais c'était un truc qui vous faisait rêver jeune, je sais pas, t'avais des vous aviez des posters de Lin Deng dans votre chambre ou je sais pas.
Lin Chongwei, on avait des trucs.
On avait Lin Chongwei.
Parce que c'était des IFB, parce qu'il jouait les IFB, du coup on avait les posters des IFB. Ouais. Mais on avait un ou deux posters, mais après voilà comme on baignait dedans et. Au tout début, ben, notre meilleur joueur, ben, c'était papa. Du coup, on était idolisé par notre père, puis ainsi de suite. Ça monte sur des joueurs parce que, à l'époque, le badminton n'était pas si connu. C'était pas trop sur les vidéos. C'était plus les gens qui filmaient avec un caméscope.
Ouais.
Donc, il n'y avait pas encore Internet, YouTube, pas très popularisé. Donc, c'était un peu difficile d'avoir les top joueurs mondiaux. Donc, voilà, c'était plus dans les tournois locaux où on accompagnait notre père.
Que vous regardez.
Mais sinon, ouais. Petit à petit, dès qu'on monte en grade, mais en fait, victoire après victoire, on a un envie de plus, on a envie de plus, on a envie de plus, et ainsi de suite. Ça monte.
C'est monté. Okay.
D'ailleurs, je voulais vous demander, du coup, plutôt team Lee Chongwei ou Lin Dan, tu vois, vu que c'était un peu les deux grands rivaux.
Bah, c'est très compliqué. C'est Lin Dan, parce que, je sais pas, il y a quelque chose de plus.
Ok, ouais.
C'est très compliqué parce que les deux sont des joueurs extraordinaires, mais voilà, je pense que la plupart des gens ont tendance un petit peu à pencher vers Lin Dan parce que c'est lui qui a gagné vraiment les titres.
Ouais.
C'est-à-dire double champion olympique, 5 fois champion du monde. Alors que Lee Chongwei, il a un palmarès qui est le plus dingue possible.
Ouais.
En étant numéro 1 mondial, peut-être le plus de semaines dans une carrière sportive, nombre de titres sur le circuit international qui
et surtout la constance qu'il a eu.
La constance, exactement.
Ouais, il était là pendant.
Durant sa carrière. Ouais, et même sur ces dernières années où on peut dire qu'il commence à être un peu plus âgé.
Il fait 40 ans, là, en plus.
Aujourd'hui, il fait bientôt 40 ans, peut-être hier ou aujourd'hui. Je sais pas plus.
Ouais, ouais, c'est ça. C'est parce que j'ai lu ça, ouais. 40
et donc,
ans.
Voilà, c'est ça. En fait, il a arrêté il y a 2 ans. Pendant le Covid, il a arrêté.
Ouais.
Et en fait, il a arrêté sur une victoire, en plus, je crois, en Malaisie. Malaisie, ouais. Où il gagne le numéro 1 mondial du moment. Je crois que l'Open du Malaisie, il a gagné 11 fois ou 13 fois.
Ouais, donc, et c'est un très gros Open en plus.
C'est un des grands chelems.
C'est un des grands chelems du badminton, oui.
Donc c'est vraiment dingue sa carrière. Mais voilà, moi personnellement, j'ai tendance à pencher vers Lin Dan parce que c'est quand même celui qui a fait les plus gros exploits aussi en termes de titres. Et okay. Puis il était gaucher aussi. Il avait un jeu assez explosif.
C'est en finale à Rio qu'ils se rencontrent les deux, non?
Ils se rencontrent à Beijing, ils se rencontrent à Londres, ils se rencontrent de Rio.
Demi de Rio.
En demi de Rio, ah bah tu vois, j'avais mélangé que tu vois une finale et une demi.
Et Lee Chongwei fait 3 finales de Jeux Olympiques en les perdant les 3.
Ouais. Ouais, c'est ça qui est aussi qui fait partie du mythe quoi.
Exactement.
C'est vraiment le mythe, c'est l'éternel. Voilà, c'est lui qui a perdu le plus de finales. Et bon.
Mais déjà, y arriver là, un nombre de fois incalculable, c'est extraordinaire.
Ouais. Non, et puis, il y a un côté, effectivement, d'avoir tout gagné, mais d'avoir échoué aux Jeux Olympiques.
Sur la dernière étape, quoi. C'est vraiment, c'est un parcours qui est phénoménal et.
Ouais. Bah, je recommande, il y a des images qu'on peut trouver sur YouTube ici et là, justement, de ces finales qui sont assez mythiques.
Oui.
Notamment à Beijing, du coup, donc c'est sur le. Dans un stade un peu mythique, rempli avec beaucoup beaucoup de monde, donc c'était.
À Londres aussi, c'est une finale qui est 21-19 au troisième set, donc ouais, c'est vraiment un petit détail. C'est gagné par Lin Dan. Le match était super aussi.
En plus, c'est tellement suivi en Asie, c'est le sport numéro 1, donc tout le monde raffole. Donc c'est vraiment, c'était tellement suivi, et puis on parlait que de ça. Puis on allait faire des stages en Chine. Les pubs de Red Bull, c'était Lin Dan. Dolce Gabbana, l'égérie, c'était Lin Dan. Les caleçons, c'était lui. Tu vois, Lin Chongwei, sur le tour Petronas, il y avait Lin Chongwei. Donc vraiment, c'était.
Sur l'aéroport, en arrivant à Kuala Lumpur, c'est une énorme affiche de Lin Chongwei avec sa raquette, quoi. C'est
vraiment pour eux, Mbappé, c'est le Mbappé de là-bas, quoi.
C'est les Zizou Mbappé.
Ouais. Et d'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser parce que vous, il me semble que vous avez une grosse communauté aussi asiatique, beaucoup d'asiatiques qui vous suivent.
Oui.
Comment ça se passe quand vous arrivez en Asie? Est-ce que vous
c'est
êtes...
C'est fou.
Bah, vas-y, racontez-moi là.
C'est deux autres mondes, on dirait.
Vous êtes deux stars là-bas. Voilà, en plus les petits Frenchies, beaux gosses et tout. J'imagine que vous devez être super suivi.
On est super sollicité, super suivi, et même des fois, ça me choque en fait tellement qu'ils sont à fond.
Ouais.
En fait, ils donnent beaucoup de cadeaux.
Okay.
Ils sont très généreux, très dans le. Je donne un cadeau parce que je t'aime bien, voilà. Donc c'est vraiment. Si on passe de ici en France à être respectueux et tranquille, pas trop nous déranger, à là-bas, c'est vraiment. Même des fois, ils sont un peu comment on dit.
Intrusif,
ouais,
peut-être.
Intrusif, ouais. Tellement c'est fort, mais tellement que c'est beau que on peut pas leur dire non. Rien que. C'était quoi? C'était à partir du mardi, ils faisaient déjà la queue à 5h du matin pour entrer dans le stade parce que c'était à guichet fermé.
C'est un truc de dingue.
Alors que le stade, il est plus grand que là. C'est vraiment, et puis c'est blindé, ça crie dans tous les sens, on s'entend même pas. On s'entend même pas tellement que ça crie
c'est
dans
le stade là-bas, c'est une arène qui est mythique. Tous les joueurs qui ont joué là-bas, on en parle, c'est la meilleure salle à jouer parce qu'en fait, ils disent c'est là-bas où presque est né le badminton.
C'est dingue.
Et c'est quelle salle du coup? C'est quelle?
Istora.
Ok.
Exactement.
D'accord.
Et en fait, moi, je jouais le premier match des qualifications de la journée, donc c'était peut-être à 8h début du match.
Ouais.
Et j'arrivais à 7h moins quart.
Ouais.
La première navette de l'hôtel qu'il y avait officiel pour aller vers le gymnase et avoir une bonne heure pour s'échauffer. Le matin, compliqué. À 8h jouer. Et 7h moins quart, on arrive vers 7h moins 5. Donc 6h55. Il y avait comme la billetterie ici en dessous des bébés, sauf que ça déborde sur la rue, quoi.
Ouais,
c'était un truc de malade.
Okay.
Et moi, je me dis, ils viennent à 8h me regarder. Parce que j'étais le seul match, en fait, sur terrain 1, c'était le seul qui commençait à 8h, puis les autres commençaient à 9h.
Okay.
Donc j'étais le premier match qu'ils allaient lancer pendant une heure.
Je fais ça pour toi.
Même moi, je ferais ça pas pour moi, quoi. Donc c'est vraiment l'amour qu'ils ont pour ce sport là-bas, c'est de la folie.
Ok.
Genre, on recevait même de l'argent, mais que là-bas ça vaut rien. Mais c'est quand même, les gens te donnent de l'argent dans un bouquet de fleurs, des cadeaux que ça part des cadres de toi-même, des
exactement,
agendas de toi-même, des plein de goodies, mais qui souvent que ça peut coûter cher, quoi.
Ouais.
Et même des fois, on se sentait un peu. Tellement que.
En fait, ils offrent un bouquet. Des fois, ils offrent un bouquet de fleurs. Et des fois, c'est un bouquet où il y a des tiges en bois sur le bouquet même. Et ils collent des billets.
Ok.
Mais des liasses de billets, quoi. C'est pas un petit billet, c'est des liasses de billets. Et donc, quand quelqu'un arrive, par exemple, de l'hôtel, nous donner ça à la chambre, c'est un peu gênant.
Ouais, bien sûr.
Surtout où on voit, par exemple, souvent quand on est en compète internationale, on est dans les grands hôtels.
Ouais.
Donc, en sortant de l'hôtel, on voit de temps en temps que la vie est pas facile, surtout en Indonésie.
Ouais.
Où il y a un peu de misère, un peu d'enfants dans la rue. Donc le fait de recevoir un peu ça, ça fait un peu un énorme contraste. Et voilà.
On était dans l'hôtel et Christo recevait son room service.
Ah oui.
Et puis vas-y.
Je commande mes pâtes bolognaises parce que voilà, je devais manger. Et la personne arrive. Et il y a un problème avec le paiement contact, je crois.
Ouais.
Et il sort, mais pendant 15 minutes. Donc moi, j'attends avec ma carte, c'est mes potes bolos en train de refroidir avec ma carte, et il revient pas. Et au moment, il revient avec un autre gars, et il parle en indonésien, et il me monte du doigt. Et moi, je commence à me dire, j'ai pas volé, quoi. Faut pas appeler la police. Je veux payer, quoi. Enfin, y a pas de souci.
Et surtout que là-bas, faut éviter la prison. Hein.
Et donc je commence un peu à stresser, je fais is there any problem, enfin voilà, est-ce qu'il y a vraiment un problème ou quoi que ce soit. Non, vous ressemblez beaucoup à Popov Christo.
Ok.
Parce qu'il a joué hier je sais pas quoi là, parce qu'on a joué le match de double
à Istora
la veille. Donc je fais c'est moi. Mais je trouvais, enfin, on m'a jamais posé ça comme question, donc pour moi c'était pas quelque chose de dingue. C'est moi.
Il
y a pas de souci, parce qu'en Europe on a jamais ça en fait.
Donc
c'est vraiment là-bas. Et le mec fait non, c'est pas possible. Si, je vous montre mes maillots dans ma valise. Genre, j'ai 30 maillots à mon nom. Enfin, personne n'aurait floqué 30 maillots à mon nom dans la valise.
Le sosie un peu fou, tu sais.
Exactement. Je fais si. Il fait c'est un truc de fou. Je suis obligé de vous faire payer. Je suis désolé. Vous inquiétez pas. Enfin, c'est un plat, c'est normal. On est à l'hôtel. Enfin, c'est l'effet que ça donne.
Ok.
Non, franchement, c'est d'un autre niveau. On peut pas sortir dans le supermarché. On se fait agripper direct par je ne sais combien de personnes. On peut pas marcher parce qu'en fait on a joué contre les numéros 1 mondiaux qui sont leurs stars là-bas.
Ouais,
et on a fait 18 et 19, donc un match phénoménal. C'était à 20h, donc prime time pour eux sur la télé. Et en fait on était numéro 1 de la trend sur Twitter.
Twitter le soir même.
Ouais. Ce soir même, numéro 1, genre hashtag Popov, il était je ne sais combien de millions de fois tweeté sur leur Twitter, sur leur serveur. Donc c'était ouf. Et même par exemple, on avait une expérience les 3 semaines à Bali, c'était pendant le confinement, donc on jouait 3 compétitions dans le même hôtel, même okay. Gymnase. Et en fait, il y avait un bureau avec des cadeaux.
Ouais.
Donc nous on est personne, on mange jamais de cadeaux, on s'en fout, peut-être c'est les familles qui envoient. Et au bout de 3 jours, on nous appelle au room service, ils disent par contre voilà, s'il vous plaît, venez, prenez vos cadeaux parce on n'a plus de place pour vous les stocker. Donc ils sont venus avec un chariot de valises, tu sais les gros trucs de valises.
Ouais ouais, je vois dans les hôtels.
Ils sont
ouais.
remplis, ils nous l'ont amené et tous les 3 jours, il fallait aller vider là-bas.
Ah oui, et en fait nous vraiment premier jour en stock, deuxième jour en stock, mais la chambre c'est pas non plus c'est pas non plus 100 mètres carrés,
il y a 1m50 de hauteur, il y avait n'importe quoi.
Ok. Et selon vous, qu'est-ce qui fait justement cette popularité avec eux? Parce que bon, j'imagine il y a peut-être certains Danois ou certains Européens qui sont aussi populaires. Oui. Mais avec vous, il se passe aussi un truc particulier. C'est le fait que vous soyez frères, que vous fassiez du double ensemble.
Je pense, ouais. C'est possible.
Un peu,
français, un pays qui est pas leader dans le badminton. Peut-être parce qu'on est frères, qu'on joue ensemble et que.
On a un peu des outsiders.
Ils aiment bien notre jeu aussi. Tout dépend. Peut-être des gens aiment bien ceux qui attaquent, ceux qui défendent, ceux qui contre-attaquent, ceux qui font bouger les gens. Voilà. Donc, peut-être ils aiment bien notre jeu aussi. Donc,
ouais.
Puis ils aiment bien le badminton en général parce qu'ils suivent le badminton mondial. Pas que leur compétition
C'est des fans indonésiens, mais qui sont des fans vraiment au badminton mondial et ouais. pas que pour les joueurs indonésiens.
C'est comme si nous on est fans de foot, mais on suit un peu le foot un peu dans la planète entière.
Ouais, bien sûr. Et on va aimer un Drogba, un David Beckham, voilà. Même s'il joue à l'étranger, quoi.
Ouais.
Donc, ok. Mais franchement, non, c'est hyper cool. Il y a aussi, je pense, une de vos petites recettes, je trouve, c'est la façon avec laquelle vous vous exprimez sur le terrain. Tu sais, quand on regarde certains autres joueurs, peut-être dans le bad, il y a effectivement beaucoup d'Asiatiques qui sont peut-être un petit peu plus réservés. Mec. Vous, on sent qu'il y a le panache, on sent que quand vous gagnez un point, vous exprimez un petit peu plus, mais je trouve toujours avec beaucoup de respect. Là où, tu vois, moi je viens du monde du tennis, tu vois, j'ai fait 12 ans de tennis, j'étais en sport études tennis, et parfois c'est à la limite, tu vois, de un peu de la provoque, des fois ça en fait un peu beaucoup, tu vois, s'il y a beaucoup de points en plus, il y a un peu plus de points dans le tennis.
Ouais.
C'est un truc qu'on vous a déjà, je sais pas, reproché ou fait des remarques sur ça, ou au contraire, vous posez pas de questions et il faut vous exprimer, mais.
Je pense qu'au tout début, peut-être on nous reprochait un peu parce que quand on est jeune, quand on est jeune, vraiment Benjamin minime, voilà, on crie pas, mais voilà.
Mais je trouve que c'est bienveillant. On sent que vous exprimez, mais c'est bienveillant quand même.
En tout cas, ça a toujours été pour nous-mêmes et pas pour crier sur l'adversaire.
Voilà.
Ouais. Ok.
C'était pas un message envers notre adversaire. C'est toujours pour soi-même. C'est une communication à soi-même et sur assurer, exprimer, puis communiquer avec le public aussi, parce que finalement, ils communiquent avec nous via les encouragements, via les cris. Donc, ouais.
Ah ouais, vous dégagez un truc. On a envie de vous supporter en fait. Non, vraiment, tu sais. Tu sais, il y avait des joueurs de tennis. Je sais pas si ça vous dira quelque chose. Leighton Hewitt, ça par exemple. Je sais pas si ça vous.
Non.
Mais où tu vois, c'était un Australien, mais en fait, tu vois, quand il gagnait un point, c'était tellement hargneux à chaque fois son cri de guerre qu'à la fin il devenait détestable. En fait, à la fin, il était saoulant, quoi. Tu vois, c'était trop. Vous, quand on vous voit, c'est autre chose. Ça donne envie. Et à l'inverse, je vous ai jamais vu péter une raquette ou péter un plomb sur le terrain. Ça vous arrive jamais?
Non. Déjà parce que c'est pas bien.
Déjà, papa, il a dit c'est pas bien.
On n'est pas les comment il s'appelait. C'était Bagdati, s'il prenait les éclatés par terre.
Benoît Père, c'est un bon exemple.
Voilà, c'est pas bien pour le sponsor, c'est pas bien pour nous-mêmes, pour notre image non plus, et puis même pour le match, parce que on sort du match carrément en faisant ça au lieu de se reconcentrer sur soi-même. Par contre, à l'entraînement, quand on joue tous les deux, oui, comme on est à la maison, on s'en fout, et des fois,
on casse pas de raquette, hein.
On casse pas de raquette, mais raquette, mais plus à rager, plus montrer la rage qu'on a, plus beaucoup plus la laisser libre cours que sur un terrain, quoi.
Bah, c'est un peu ouais ça que je voyais en regardant les vidéos. C'est il y a beaucoup d'émotions qui passent quand vous gagnez les points et quand vous les perdez. Vous avez cette capacité à passer à autre chose. En tout cas, vous donnez cette impression là.
C'est le mieux à faire que... parce que si on reste dans l'échange passé, ouais, comment on enchaîne bon. Comme c'est un sport où on enchaîne très très vite.
Ouais.
Donc on n'a pas le temps de rester comme c'est un peu c'est un tie break. Donc
service dans le filet, c'est point pour l'autre. Enfin, on n'a pas de seconde chance nulle part.
Un échange dure en moyenne 15 secondes, on va dire, et on enchaîne toutes les 5-10 secondes. Et surtout à la télé, ils enchaînent d'enchaîner le plus de points possible parce que le temps il est chronométré quand on est rediffusé à la télé.
Okay.
Par exemple, ils vont retransmettre, ils vont dire aujourd'hui sur l'équipe, on retransmet que de 14h à 18h. Donc le but de l'organisation aussi, c'est de montrer le plus de matchs possible.
Ok.
Donc ils essayent pour les pubs et pour les télés d'enchaîner et respecter les arrêts en fait.
Ok, d'accord. Ouais. Donc ils vous demandent d'aller un peu plus vite sur les arrêts, c'est ça?
En fait, il y a pas vraiment de règles qui disent voilà, il faut qu'il y ait tant de secondes entre les points. Mais ils disent voilà, il faudrait aller un peu plus vite.
Pour que le match soit continu.
Par exemple, plutôt, faut être prêt maintenant. Enfin, pour mon frère.
Ouais, on vous le fait sentir sans que ça soit.
Exactement.
Une règle
ou par exemple, carré, souvent, on a quand même le droit d'aller faire, par exemple, s'essuyer la tête avec la serviette.
Ouais.
Ou après un long échange, aller demander à boire un coup.
Ou nettoyer le terrain parce qu'on peut avoir des gouttes de transpiration. Ouais.
Et donc, si on est dans les premiers matchs, encore, ça va, ils sont assez.
Propre.
Il laisse faire, il n'y a aucun souci. Mais si on est dernier match, on est déjà à la bourre de 1h30 sur l'échancier. Dans ce cas-là, c'est serviette, vite, la prochaine fois, non. Boire, non, il faut attendre la pause.
Hors des cas extrêmes, bien sûr, hein, si le mec est en sueur que ça coule sur le terrain.
Exactement, dans les limites.
Mais c'est marrant parce que tu vois, j'avais jamais entendu ça, tu vois, alors que je vous disais que j'étais allé à la rencontre de certains sports très peu médiatisés et tout. Et je n'avais pas justement cette contrainte que tu peux avoir justement sur des médias, en fait, tout simplement sur le sport et qui viennent influencer directement une rencontre. Mais
comme en
du
France,
coup, ça va très vite, quoi. Il faut...
C'est ça, parce que comme en France, on n'est pas un sport qui est très médiatisé au niveau de la télé. Donc, dès qu'on a une chance, faut que ça enchaîne et faut qu'on l'utilise à 100%. C'est pas comme le Danemark ou en Asie où, voilà, c'est retransmis sur TF1, l'équivalent de TF1, France 2, France 3.
Ouais.
Donc dès qu'on a une chance sur l'équipe ou sur AMC d'être retransmis, ils utilisent à fond cette plage horaire, quoi.
Malheureusement, ça peut pénaliser un petit peu le joueur, désavantager ou voilà, mais ça reste des cas, comme il dit, assez peu.
Ouais, ok.
Dans l'année.
Bah écoutez, merci pour ce petit spotlight un peu du sport business, si on peut dire. J'étais pas du tout au courant, mais. Et pour revenir justement à l'attitude que vous avez sur le terrain, c'est quelque chose que vous travaillez, tu vois, d'une certaine façon, ou ça a été toujours lié à votre éducation aussi, je pense. Comme vous l'avez dit, votre papa, il a beaucoup de valeurs, c'est une personnalité, et je pense que ça vous
drive. Je pense que ça vient du papa. Vu qu'on a commencé très très jeune, je pense que la première chose qu'on a fait tout jeune, c'est prendre exemple sur notre père, comme il disait, comme premier idole, premier joueur. Et le fait que papa était déjà très expressif et, comme tu dis, plein de valeurs et un caractère très fort, je pense qu'on a pris beaucoup de notre père, oui. Ça vient de là.
Ok. Mais bravo pour ce travail-là, parce que on voit beaucoup de joueurs, tu vois, de plus en plus sur le tennis qui vont se mettre à la méditation, préparateur mental, justement parce que chaque point est important et que si t'en perds un, parce que t'es un peu... t'es encore dans la colère et frustré de du point d'avant, tu peux vite perdre un match. Donc vous dégagez cette sérénité, cette force mentale qui est assez brillante. Ça fait plaisir à voir, en tout cas. Donc chapeau. Un autre truc que je voulais vous demander, c'est est-ce que vous bossez sur de l'orthopsie pour les yeux? Parce que j'ai entendu, j'entends de plus en plus d'athlètes de haut niveau sur les sports où il y a beaucoup de réflexes, où ça va très vite, que ce soit dans le tennis, dans le ping-pong, dans le tennis de table aussi, je l'ai entendu. Je l'ai entendu aussi dans le canoë-kayak pour bien voir les portes. Je l'ai vu avec des skieurs aussi, tu vois, pour voir le plus loin possible. Et tiens, je me suis dit en voyant le badminton, tiens, est-ce que c'est peut-être quelque chose que certains joueurs font? Alors vous êtes encore super jeune, donc normalement la vue elle se détériore pas. Mais est-ce que peut-être vous avez entendu d'autres joueurs ou vous non pas du tout?
Honnêtement,
c'est la première fois que j'entends ce mot.
J'allais dire pareil, c'est la première fois que j'entends ce mot.
Okay,
la première fois que j'entends ce mot, mais après je veux dire, je sais pas comment on s'entraîne tellement à réagir à des fractions de secondes, même pour l'instant on en a pas vu tellement de besoin. Moi, je porte des lentilles parce que je suis myope.
Ok.
Mais bon, bientôt dans l'ange, je devrais me faire repérer parce qu'elle est stabilisée. Donc oui, comme ça, c'est réglé.
Ok.
Parce que des fois, avec les lentilles, je peux avoir quelques.
Ça peut bouger.
La lumière peut des fois bouger ou m'éblouir selon l'angle.
Ok, d'accord.
Mais finalement, ça va encore. Il y a pas de souci. Mais ouais, c'est la première fois que j'entends ça.
Ok. Bon bah écoutez, peut-être que ça viendra plus tard.
Mais même à la maison, des fois, on, par exemple, il y a un bocal qui tombe, un verre qui tombe, et en termes de réflexe, on le rattrape tellement rapidement que des fois, je suis étonné de moi-même. Je pense que lui aussi, enfin, réagir à un quart de seconde, voilà, directement, parce qu'on joue avec un projectile qui est vraiment, qui est le plus rapide, qui a été frappé le plus rapidement possible. Ouais. Donc c'est vraiment.
Ok. Et c'est ça se bosse les réflexes. Si demain je devais bosser mes réflexes, vous, c'est quelque chose que vous avez bossé ou c'est parce que vous passez 5, 6, 7 heures par jour sur le terrain quoi.
Ça se bosse sur le terrain. Enfin, ouais. Voilà, regarder, bouger sur un terrain, s'orienter dans un terrain tout en regardant le volant et en regardant l'adversaire où il est. Ouais, déjà, on a une bonne vue qui est assez large et en termes de compréhension de l'espace et de comment, où on se situe. Et ensuite, à l'entraînement aussi, on fait beaucoup de, par exemple, on va être sur un plateau qui nous déséquilibre. Ça peut être un bozo ou quelque chose d'autre. Et en fait, en même temps, on va jeter des balles avec notre préparateur physique. C'est un exercice tout con. Mais je veux dire, pour se concentrer sur autre chose et que les yeux suivent autre chose. Alors que les jambes travaillent en même temps et différencier haut et bas.
Diviser les tâches, chacun concentré sur quelque chose d'autre.
Ok, ouais. Donc diviser un peu l'effort de réflexe de rattraper des balles que la personne laisse tomber et en même temps d'avoir de l'instabilité ou d'avoir une contrainte qui fait que vos muscles ils sont sollicités, quoi.
C'est ça.
Donc vous êtes obligé de vous concentrer à la fois, enfin, sur deux parties différentes. Ok. Hyper intéressant. J'aimerais même mettre une petite souris pour savoir ce que vous faites avec votre prépa physique. Parce que vous êtes méga souple. On voit limite des fois à la limite du grand écart, vous allez super bas sur les appuis. Vous devez être hyper puissant, réactif, explosif parce que comme vous l'avez dit, ça va super vite et des fois le volant, je crois qu'il part à quasiment 150 km/h, non, en sortie de raquette.
En sortie de raquette,
plus 484. Le max c'est 496
ouais. Et c'est un record, c'est un Malaisien qui l'a fait en sortie
mais
de
en
raquette.
En match, on voit que c'est 410, 420.
En match réalisé, c'est 410, ouais. Mais en moyenne, nous, en moyenne, sans faire des smatchs ou quoi, ça peut être vers les 200. Si on tape un smatch, les moins forts tapent vers les 300 et les plus forts tapent à 400.
C'est ça, ouais.
Waouh, ok.
Je prends une plage, large.
En tout cas, c'est bien plus rapide que 100.
Rien que le jeu à plat, s'il y a des doubles, le jeu à plat, ceux qui sont au filet, ils sont à 3 mètres l'un de l'autre, ça envoie très très vite.
Mais je m'étais déjà pris, c'était au lycée, tu vois, mais un volant en pleine tête, ouais, tu t'en souviens, quoi, ça marque. Et du coup, qu'est-ce que vous allez bosser, du coup, en préparation physique? Là, vous avez donné un petit échantillon, mais, beaucoup de souplesse, explosivité, endurance peut-être un peu
ça
aussi.
Ça dépend de la période.
Ouais.
Par exemple, si on a une période de préparation, on sera plus sur de la force et sur de l'endurance. Et par exemple, si on est proche de la compétition ou entre les compétitions, ça va être plus du maintien ou de l'explosivité et de la vitesse.
Okay.
Avec des charges plus légères. Et donc, d'abord, sur les grosses périodes, un travail plus qui est foncier.
Ouais.
Endurance, force, voilà, renforcement musculaire, vraiment, la muscu pure et dure.
Okay.
Ensuite, ça sera plus peut-être sur du spécifique avant la compétition, histoire de, travailler en corrélation avec notre entraînement de badminton.
Okay.
Moins de pistes, sur des fractionnés, des trucs comme ça.
Et qu'est-ce que vous préférez du coup dans les...
Pas le cardio, c'est sûr.
ça dépend quel cardio, mais oui.
Ok.
Par exemple, moi je sais qu'il y a des adeptes du cardio qui adorent faire du cardio sur piste.
Ouais.
Même si nous, on n'est pas un sport de piste. Mais moi j'aime pas ça. De base, j'aime pas vraiment courir longtemps. J'ai du mal en fait à trouver pour moi le but et l'objectif, en fait j'ai du mal.
Faut un jeu, quoi.
Exactement, il faut un challenge en fait, et courir sur par exemple, ça peut être un terrain de bad sans raquette ni volant. Courir sur un terrain de badminton, je trouve ça beaucoup plus, enfin moi je me sens beaucoup plus performant et à l'aise, même parce que c'est mon terrain de jeu aussi, que courir sur une piste par exemple. Donc ça dépend vraiment des cardio, faire de l'agilité en cardio, faire par exemple, on fait beaucoup de, ça peut être 30-30, 20-20 ou 30-20 avec plusieurs exercices, que ce soit pour les bras, pour l'agilité des jambes, ça peut être course pendant 30 secondes aussi, ça peut être déplacement spécifique au badminton, ça peut être du step, ça peut être n'importe quoi, mais voilà, enchaîner les exercices, peut-être avoir beaucoup de changements et pas tomber dans une routine de cardio. Je pense que je suis plus dans ça.
Après, il y a souvent une différence entre peut-être la souplesse de mouvement et la souplesse pure et dure, comme un truc. Donc, je pense que nous, on est beaucoup plus souple en termes de mouvement que en termes de
souplesse pure.
S'étirer, souplesse pure, quoi.
Ouais.
Et ça dépend beaucoup aussi, parce qu'on mettra peut-être un peu plus l'accent sur les jambes, parce que c'est ce qui nous permet de nous déplacer et de bouger. Et ensuite, ce sera plus le haut du corps, quoi. Mais okay. Beaucoup les abdos, parce que la ceinture abdominale est très importante pour toutes les frappes, pour la stabilité, pour le gainage sur le terrain, perdre le moins d'énergie possible sur nos déplacements aussi.
Exactement.
Ouais. Donc, voilà, ça se focalise surtout sur ça.
Ok, d'accord. Et peut-être pour bien comprendre, tu vois, ce que les auditeurs, ils aiment bien aussi, c'est... comment est organisée une année? Tu vois, combien de tournois vous jouez en moyenne par saison? Après, on va parler un peu de double, forcément, et parce que vous rajoutez quand même une contrainte, parce qu'il y a très peu de joueurs de votre niveau qui jouent sur à la fois en simple et en double. Donc comment vous gérez d'ailleurs sur un tournoi où vous jouez les deux? Est-ce qu'il peut y avoir des problématiques d'agenda? Mais ça doit être épuisant, je pense, moralement. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu sur une saison, et après peut-être on pourrait faire un focus sur le tournoi là qui a lieu à Coubertin, organisé par Yonex, les internationaux de France, et de voir comment est-ce que vous allez vous organiser là maintenant tout de suite.
Le BAD, c'est un truc un peu atypique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de saison, c'est plus okay. Sur des tournées, c'est-à-dire que là on est en plein tournée européenne, on ouais. Est au deuxième tournoi. Et il n'y a pas vraiment de... C'est-à-dire, à la fin de ce tournoi-là, voilà, il y a une pause de 3 mois. Enfin, il n'y a pas une pause
c'est
d'été, il
n'y
a pas de pause.
Ouais, ouais,
exactement. Donc, en fait, c'est vraiment au joueur, à l'athlète, de se dire je vais louper telle et telle compétition pour me faire 2-3 semaines de vacances.
C'est vraiment comme le tennis. C'est plus comme le tennis, je pense.
Ouais, exactement. Mais après, au tennis, tu as quand même... À la fin, tu vois, le 31 décembre, je sais pas si vous avez la même chose, tu vois, avec le Master 1000, du coup, et puis après, y a un classement général qui est fixé, et du coup il y a le champion du monde de l'année, quoi, tu vois.
Sur les World Tour, enfin je veux dire sur les ATP, c'est ça?
Ouais, exactement.
Nous c'est je pense qu'ils ont un peu copié le système au badminton, c'est que on a pour nous les ATP c'est les World Tour.
OK. Ouais, ouais,
donc il y a des différents chelem, 100, 300, 500, 750 et 1000. Ouais. Nous Paris c'est un 750, donc c'est un des grades 1, ils appellent ça, donc les un peu comme les grands chelem. Et fin d'année, il y a le dernier tournoi des World Tour qui s'appelle le World Tour Finals, du coup, okay. Comme l'ATP finale.
Ouais.
Et voilà, celui qui gagne est le gagnant des World Tour de l'année, évidemment.
Okay. Donc dans le classement des World Tour, il y a que 8 personnes qui sont les 8 meilleurs.
Ouais, qui sont
mais c'est en dehors du classement mondial.
D'accord.
Parce que nous, on a les World Tour et on a le championnat du monde aussi. C'est deux choses différentes.
C'est un classement que des World Tour.
Ils ont pas un championnat du monde.
Ouais, exactement.
Nous, on a un championnat du monde.
Ouais, exactement. Donc ouais, vous avez déjà une saison hyper riche, des championnats du monde et des championnats d'Europe, comme vous l'avez
exactement.
Dit, vous les avez joués, ça vous réussit bien. Combien vous faites de tournois à l'année au final?
Tout dépend, je pense.
Ça dépend des années. Par exemple, cette année, je pense que c'est... et l'année dernière, c'était une des années de badminton avec le moins de tournois peut-être.
Ouais, bien sûr. Mais cette année, ça a repris.
C'est même 10-15, même moins. Ouais. 10
15, non.
15.
C'est sur 10 tournois le classement mondial, donc on en
mais
fait
l'année prochaine, ça va enchaîner.
Ok.
Mais l'année prochaine, on est peut-être à. Il y avait 32, 33 tournois à l'année, donc c'est
mais
énorme.
Plus.
Peut-être un peu plus,
pas
mais c'est
loin
énorme.
Des 40, parce que c'est une.
Qualif olympique.
Donc ouais. Il y a beaucoup plus de tournois. Et ensuite, comme il y avait le Covid, il y a eu des tournois qui ont été suspendus. Donc il y a de nouveaux tournois qui sont rajoutés, plus les tournois classiques qui sont revenus.
Ouais, d'accord. Ouais.
À cause de l'infection Covid, parce qu'il y a plus de. On va dire presque
des tournées plus longues.
Ah ouais.
Donc un calendrier normal, donc ça enchaîne toute en fait toute l'année. Il y a des compétitions de niveaux différents. Il n'y a pas un week-end sans une compétition. Donc tout dépend de notre niveau. On choisit, c'est le sportif et son entraîneur et la fédération en gros qui choisissent. On choisit de faire tel et tel et tel tournoi sur cette tournée où on écarte plus, où on voit beaucoup plus large, quoi.
Exactement. Ok, d'accord, ok. Ouais, je comprends mieux. Il y a un moment quand même qui est important au début de l'année, c'est de faire votre calendrier et de commencer à vous projeter et de prévoir.
Souvent, c'est le même chaque année.
Ouais.
À part ces nouvelles compétitions qui arrivent ou qui s'enlèvent, mais souvent, par exemple, on sait très bien que en janvier, il y a une tournée asiatique.
Ouais.
Le premier week-end de février, c'est les championnats de France et tous les championnats nationaux se jouent à ce moment-là.
Ouais.
On sait que au mois de février, il y a le championnat d'Europe par équipe.
Ouais.
Puis ça enchaîne avec une tournée européenne aussi. Hein.
Une tournée européenne, et ensuite sera plus tournée asiatique selon les parties.
D'accord, ok. Et si on fait le focus sur un tournoi, du coup là, ouais, on est dans l'arène de Pierre de Coubertin. Là, sur les images, on aura des joueurs en train de s'entraîner. Comment ça se passe? Moi, je vais découvrir. Est-ce que vous jouez plusieurs matchs par jour?
On peut. Si on joue deux disciplines, on peut.
Ouais. Ok. Si tu fais le double et le simple, c'est possible de jouer.
Sinon, c'est un match par discipline par jour.
Ok, d'accord. Pour tout le monde.
Exactement.
Pour tout le monde.
Ok, d'accord. Oui. Et c'est un match. Enfin. Moi, j'ai l'impression quand je vous vois, c'est court, relativement court, mais c'est hyper intense.
Oui.
Quand vous terminez un match, vous êtes lessivé, vous êtes. Ouais. Comment vous faites pour récupérer un peu plus vite pour du coup être à nouveau d'attaque le lendemain?
Complément alimentaire, aller voir le kiné, se faire soigner, se reposer, faire un petit retour au calme comme il faut, et puis après bien manger surtout, parce que c'est ça qui fait. Et après on est, c'est un match par jour et nos corps sont entraînés pour enchaîner, parce que en fait comment dire, quand on est dans les tournois un peu plus de bas niveau, on peut enchaîner jusqu'à 2 matchs par jour.
D'accord. Et donc vous avez l'habitude.
Et pendant 4 jours, on peut enchaîner 2 matchs par jour.
Ouais.
Donc tout dépend si on fait 2 tableaux, ça en fait 4.
C'est énorme.
Donc c'est énorme. Donc nos corps sont déjà préparés. Donc dès qu'on arrive sur des compétitions de référence et qu'on est dans les meilleurs, un match par jour, c'est assez facile à gérer.
Ouais. Ok.
C'est plus à la fin, c'est à la longue.
Ouais.
Mais les 2 premiers jours, normalement, ça va très bien. À part si on a fait un match de une heure et quart, 1h30.
Ouais, ce qui arrive quand même.
Ce qui arrive assez souvent dans ces cas-là, parce que tout le monde se rapproche en termes de niveau et c'est très condensé, c'est très très dense.
Okay.
Ça va dépendre aussi des salles. Il y a des salles où les volants vont être plutôt lents, plutôt rapides. Donc, quand les salles sont avec des volants plutôt lents, les matchs se rallongent.
Okay.
Les rallyes deviennent de plus en plus longs, il y a plus de coups, il y a plus de. Ouais, c'est-à-dire que le même match avec un volant rapide, ça se trouve, ça va être 45 minutes, 50 minutes, peut-être 1 heure sur 3-7.
Ouais.
Mais le même match avec des volants vraiment lents, ça peut être 1h30, 1h40.
Ouais.
Et donc c'est vraiment x1,5 presque.
Donc, donc
ça rallonge.
Tout dépend du style des deux joueurs. Tout dépend de l'altitude où on est. Parce que selon l'altitude, la vitesse du volant varie. Selon la hauteur du gymnase, s'il y a du vent ou pas, s'il y a des courants d'air.
La chaleur. Ouais.
La chaleur, c'est... l'humidité. Il y a plein de paramètres qui sont pris en compte. Voilà, pour la vitesse du volant, quoi.
Ouais, vu que c'est un tout petit élément, effectivement, il est fragile.
C'est 16 grammes. 16 grammes.
Non, beaucoup moins, 3 ou 4. 5.
Non, je crois que c'est 16 grammes.
C'est pas d'accord, on ira vérifier.
C'est 6 ou 16, parce qu'il y a un moment donné, la FED, c'était 6 grammes de plus, mais des tonnes d'émotions, 16 grammes de plus, mais des tonnes d'émotions.
Ok, d'accord.
En tout cas, c'est moins que 10, c'est sûr.
Probablement 6 grammes alors. Mais on ira vérifier et mettre les infos en description de l'épisode. Moi, je serais curieux aussi de savoir, parce que vous avez des jeux assez différents, des physiques aussi assez différents. Tu vois, du coup, toi, Thomas, t'es grand, bien carré d'épaule. À ce qui paraît, t'es une brute sur le terrain et t'envoies des parfums. Tu vois, toi, Christo, t'es plutôt connu comme celui qui ramène tout et qui arrive à.
Arrête de rire, c'est vrai.
Et qui est peut-être un petit peu, voilà, le gaucher qui a un peu de technique, tu vois. Du coup, quel type de volant vous allez préférer? Quel type d'adversaire vous allez tous les deux préférer? Et vous allez grignoter.
Mon pire ennemi, c'est celui qui ramène tout et c'est celui qui court.
Donc ton pire ennemi, c'est ton frère. Ouais.
Un peu moins, parce que lui, il attaque quand même et il contre. Il y en a où juste il joue devant, derrière, ils font pas de faute. Donc ça, c'est mon pire ennemi. Ouais. Et ensuite, ce qui peut m'avantager ou me défavoriser, c'est je préfère les volants rapides et j'aime pas les volants lents. Normal, je veux que mes matchs partent vite et que je finisse vite.
C'est logique.
Donc c'est logique que je préfère les volants rapides.
Okay.
Pour ma part, j'ai eu plus de préférence sur des volants plutôt rapides parce que. J'ai toujours joué petit sur des surclassés, des personnes qui avaient toujours 2 ans, 3 ans plus que moi. Et donc, quand on est petit, on voit la différence de physique en termes de force, de déplacement, de puissance dans les volants. Donc, j'ai toujours préféré les volants rapides parce qu'en volant lent, on me baladait.
Ouais.
J'avais petit, pas de force, 3 ans de moins. Mon smash, il équivaut pas au smash l'adversaire. Donc, c'était plutôt, moi, plutôt volant rapide jeune. Maintenant qu'en senior, tout le monde est préparé physiquement, tout le monde est vraiment est capable, comme il dit, notre corps est préparé de tenir un match junior 30, il n'y a pas de souci.
Ouais.
Donc les volants lents ne sont plus tellement un souci, mais voilà, moi j'ai plus trop de préférence. Je pense qu'après j'ai un jeu aussi tellement différent de lui où c'est pas que de l'attaque, mais j'aime bien aussi défendre. Donc pourquoi pas défendre avec volant plus lent, ça me permet de défendre mieux aussi.
Okay.
Donc presque ça m'est égal, mais voilà, il faut aussi différencier son style, c'est-à-dire volant rapide, je jouerai différemment que sur une salle lente. Faut juste être au point et s'adapter à chaque salle, c'est ça qui est le plus difficile.
Ok, d'accord. Ok. Bon, hyper intéressant. On est à fond dans la technique et je sais à quel point les auditeurs qui sont fans de sport, ils sont toujours ravis de découvrir ce genre de petits.
Il y a des petites anecdotes, des petits détails. Ouais.
Donc trop bien. Merci. L'heure tourne. Donc je vais essayer d'accélérer. Il y a une question que je voulais absolument vous poser et puis après je vous ferai les deux trois questions de la fin. Le double. Comment est-ce que c'est venu? Vous aviez une super ascension déjà. Comme vous l'avez dit, tous les deux en junior avec des super résultats. Ça cartonnait. vous êtes venu au double plus tard ou est-ce que vous jouiez déjà un petit peu un peu avant? L'objectif aussi, tu vois, que vous êtes que vous fixez à deux. Comment c'est arrivé un peu sur la table ce sujet-là? Ou est-ce que pareil, c'était très naturel et...
Très naturel, je pense.
Je pense qu'on a, comme dit, très naturel. On a joué tous de, c'est-à-dire lui, il a joué dans ses catégories, moi ouais. dans mes catégories, parce qu'on a quand même 4 ans d'écart, donc en jeune, on pouvait pas jouer ensemble.
Ouais. Donc même à l'entraînement, vous n'avez pas fait un double ensemble?
Pas vraiment. Après, jeune, il y a eu... C'est-à-dire que la différence de niveau, elle s'est beaucoup très rétrécie vers ouais. les dernières années, quand j'ai commencé à avoir 16, 17, 18, 19 et maintenant 20 ans. Quand j'avais 12 ans et lui 16, c'était presque impossible physiquement de tenir un match face à lui. Il se déplace beaucoup plus vite que moi à l'époque. Donc, c'est jeune, il y a une énorme différence entre les âges.
Okay.
Et après, en senior, après, ça s'équilibre évidemment. Donc je pense qu'en jeu on n'a jamais joué ensemble, match officiel on n'a jamais joué ensemble. À l'entraînement ça nous est arrivé peut-être pour rigoler, mais chacun a fait son parcours en double avec des partenaires différents. On a tous ouais. les deux performé dans nos âges, moi que ce soit avec Kenji et toi avec soit Tom ou autre.
Ou Tom ou Thomas.
C'est ça. Et donc voilà, il a été champion d'Europe en double dans sa catégorie, moi dans la mienne aussi.
Ouais.
Donc une fois arrivé senior, on a choisi de ne pas aller à l'INSEP. Donc ouais. c'est-à-dire que mais nos partenaires vont continuer la structure nationale. Donc c'est plutôt des pairs entre eux de l'INSEP pour pouvoir s'entraîner ensemble, ce qui
ouais,
est normal.
Ouais.
Et nous on s'est dit pourquoi pas nous commencer de notre côté. On a été performants en double, on a commencé, on a fait quelques compétitions ensemble. On a plutôt
fait chier des gens qui s'entraînaient au badminton professionnellement en double homme depuis très longtemps. Mmh. Et donc petit à petit, et puis finalement avec le Covid, l'occasion s'est présentée à ce qu'on rentre dans des tableaux où on espérait pas rentrer.
Ouais.
Donc d'un côté, moi ça me permettait aussi de faire un deuxième tableau en plus,
ouais.
parce que j'avais pas encore le niveau pour concurrencer encore les meilleurs. Et puis Christos, ça le faisait sortir du coup, enfin. Un peu du cercle Covid, le faire venir sur des grosses compétitions que normalement il n'aurait pas pu avoir accès.
Ouais,
et donc aussi, au cas où si des gens se délistaient, qu'ils puissent rentrer en simple et pouvoir apprendre de l'expérience. Donc c'était bonus pour lui, bonus pour moi. Finalement, on faisait de beaux matchs, on s'amusait. Et en fait, au tout début, c'était parti plus pour de la rigolade, fun et s'amuser. Et finalement, petit à petit, on voit que finalement, non. Enfin, ouais. on le prend toujours avec autant de plaisir et ainsi de suite, mais... On commence à se poser la question, est-ce qu'on doit peut-être plus travailler un peu ça, un peu si à l'entraînement, parce qu'en entraînement, on ne s'entraîne pas, ouais. en double homme. Donc c'est contradictoire de dire ça, mais on arrive au top 20 mondial sans trop
s'entraîner, voilà. Sans pousser,
sans pousser vraiment sur un entraînement spécifique sur le double homme, sans ouais. être un expert du double homme. Et donc on se dit, imagine ce qu'on peut faire si on se met à fond dedans, quoi.
Ouais.
Mais voilà, pour le moment, on est tous les deux focalisés sur le cadre de simple homme aussi, donc on gère deux projets en même temps et on espère pouvoir se qualifier
à Paris, que ce soit en simple et en double.
Voilà.
Ok. Écoutez, les gars, c'est tout ce que je vous souhaite. On se donnera rendez-vous vu que j'y serai aussi également. J'ai les 3 petites questions de la fin. Elles sont très rapides. Et puis après, je vous laisse tranquille parce que je sais que vous avez un gros programme et que ça joue. La première, c'est quel artiste on trouve dans vos playlists respectifs?
Musique.
Ouais, exactement. Avant un match, après
je pense
un match.
Qu'on a tous les deux fans avec soi. On vient à côté de Marseille, donc on a aussi des bons rappeurs vers là-bas.
On n'a pas eu le temps de parler de l'OM, mais je crois que
l'OM, c'est dans le cœur, hein,
c'est ça.
Okay. Non, mais je pense que après on écoute beaucoup, ça se croit peut-être rap français, rap ouais. américain, aussi beaucoup de comment dire, un peu de dance et électro, tout ce qui est DJ.
Ok.
Mais par contre, moi pour les jours même, j'écoute que de la musique un peu plus de animé.
Okay.
Parce qu'il n'y a pas de paroles et c'est beaucoup des musiques motivationnelles, donc plus dans ce sens-là.
Ok, d'accord, ouais. Sans paroles, mais juste avec le.
Voilà, juste avec la musique. Et je m'imagine après, enfin, l'animé derrière, hein, tout ce qui est manga, mais voilà, après. Moi, personnellement, ça me motive et donc voilà, c'est cool.
Trop bien, ok.
Moi, c'est. En général, vu que je n'ai pas été toujours très musique depuis petit, c'est plus. Je vais dans. Parce que je suis sur Deezer, titre du moment.
Ouais,
je regarde un peu, des fois j'entends, je teste ce qui me plaît et en fait je fais ça.
Okay.
Mais sinon, enfin, vraiment, personnellement, j'écoute des années 50 jusqu'à.
On peut t'écouter.
Brasse tout, enfin, toutes les variétés, ça peut être rock'n'roll, hard rock, juste pas le metal, hein, pas ça.
Mais, metal vulgaire.
Mais ça peut être de la musique bulgare, américaine, française, juste peut-être la variété un peu française, on a un peu pas. Pour des sportifs, dans le gymnase, quand on écoute, quand on s'entraîne, la variété française, c'est pas ouf, quoi. Mais sinon, ouais, sinon,
ça
on écoute
un peu de, ça manque,
ouais,
un,
ça
peu
manque
de
un peu de pêche, quoi.
Ouais, ok, je comprends bien. Est-ce qu'il y a une série ou un film que vous auriez envie de montrer à tout le monde tellement vous l'avez adoré et tellement peut-être ça vous a inspiré et ça vous a donné envie de faire encore plus.
Je vais parler émotionnellement, je pense, mais vas-y, pour réfléchir un peu au film. Le dernier film incroyable,
Top Gun.
C'est Top Gun, Maverick.
Ouais, ok.
Incroyable.
Ouais. Franchement, presque on pleure. Frisson, on pleure. Enfin,
exactement.
C'est dingue, hein, parce que même le 1, alors vous, c'est
le 1 est aussi.
Mais moi, j'ai tellement regardé, c'était en cassette. Tu vois, j'avais en cassette, mon père l'avait
enregistré
à la télé. Exactement, en VHS. J'ai tellement regardé que, tu sais, l'enregistreur, il avait abîmé la bande, tu vois, et qu'à la fin, je le voyais même plus, tu vois.
D'accord.
Parce que, tu sais, les cassettes, ça allait plus, tu regardais une cassette, plus elle s'abîmait. Oui. Donc, à la fin, plus tu regardais, plus l'image était nulle. Et à la fin, je pouvais même plus
peut-être
voir.
En termes de film, peut-être Gladiator.
Ouais, ok.
Les Seigneurs des Anneaux, franchement, les Seigneurs des Anneaux.
On est fan d'automobile, Le Mans.
Ok.
Le Mans 66.
Ah, c'est une
arrêt. Il est pas mal.
Ok. Bah, écoute, je le connaissais pas du tout, je regarderai. Et vous avez regardé La Méthode Williams récemment?
Oui, on a regardé La Méthode Williams.
Dans l'avion.
L'avion pour aller au Japon.
Des longs trajets, il y a, du coup, le streaming sur l'avion.
Moi, je connaissais pas trop, donc ça m'a pas inspiré, mais j'ai comme un documentaire, quoi. Ça t'apprend des anecdotes, et comment ça s'est passé, l'histoire du sportif et.
Et puis c'est vachement, je pense, un peu vu dedans, vu que c'est quand même une famille qui, avec du coup des sœurs, le papa qui est coach, un peu, on vient pas de la France, donc aussi c'était un peu.
Ouais, bien sûr.
On a bien aimé, surtout pendant le confinement, c'était The Last Dance de Jordan, même le nouveau qui vient de sortir sur Netflix, c'est The Redeem Team.
Ouais.
Donc franchement, ces trucs comme ça avant une compétition, ou alors lui il aime bien Creed. Creed, ça le met bien.
Pour le film, je m'imagine déjà en un an bosser comme un dingue.
Ok. Bah, trop cool. Merci pour toutes ces recos. La toute dernière question que je pose aux invités, c'est un peu un passage de micro. C'est de savoir quel est peut-être le ou la prochaine invité que vous me recommanderiez d'inviter. Ça peut être un ou une badiste, ou ça peut être un ou une athlète française que vous avez rencontré. Que vous avez rencontré, avec qui vous avez eu un bon feeling. Je vous laisse, tiens, vous avez chacun une reco, vous devez tous les deux, vu qu'il y a un micro chacun, vous devez tous les deux me donner une personne, tiens, qui pourrait être sympa d'aller interviewer.
On pourrait tirer plutôt pour un autre sport, non ?
Sur un autre sport ?
Ouais, vas-y. Comme vous voulez.
Un joueur de l'OM, tu sais. Non,
Bah si, tiens, si ça devait être un joueur de l'OM, tu choisirais qui ? Dont t'aimerais bien un peu
de l'OM.
Un peu plus.
Franchement, Guendouzi ou Sanchez, parce que le mec il est passé par plusieurs clubs, il a performé, et même tu le vois à l'OM, bientôt il a un âge où il commence à régresser en termes de niveau, et le mec il s'arrache sur le terrain, une hargne vraiment, voilà, il a envie de ballon, il veut manger ballon, il vit ballon, on sent, et c'est pour ça que peut-être les supporters marseillais l'aiment bien aussi, parce qu'il se donne sur le terrain, il mouille le maillot, comme on dit.
Ouais. Mais et c'est important.
Ouais, c'est fan de l'OM.
Ah, ok, d'accord.
Je me comprends. Mais un sportif. Il n'y a pas eu trop de communication avec des sportifs extérieurs, quand même.
Ouais.
Ou vous êtes quelqu'un juste que vous avez vu sur les réseaux, que vous suivez un peu et que vous vous dites, tiens, cette personne-là, elle pourrait être sympa, mais.
Qui ça ?
Pourquoi pas, hein. Ouais, mais tout dépend. Est-ce qu'un sportif plus arrêté ou est-ce qu'un sportif
les deux, on prend tout.
Peut-être un Kevin Mayer qui domine un peu son sa discipline.
Ouais.
Bah écoute, je croise du bois. Enfin, je touche du bois. Je vais essayer d'aller le rencontrer. Écoutez, ça fait 1 heure pile poil sur mon enregistreur. Merci. Merci infiniment les gars, franchement je me suis régalé de découvrir tu vois le bad avec votre angle tu vois, et pourtant je pense que c'est un sport qu'on fait tous au collège ou au lycée
C'est super, c'est le sport numéro 1 scolaire, mais ensuite ça perce pas quoi. On arrête au scolaire
et ça manque un peu de médias, et tu vois je suis ravi de le faire découvrir par vos voix et notamment par vos parcours, parce que je suis sûr que comme votre père le dit, c'est que le début.
Franchement
je croise les doigts pour vous et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite.
Merci.
Je me fais pas de doute une seule seconde pour tous les deux. Et puis écoutez, comme on dit chez moi, bon vent, bonne aventure, et puis revenez avec plein de médailles.
Merci beaucoup.
Salut les gars.
Salut.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.